La voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les soirs à 18h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Le monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique, édition du vendredi 11 juillet. Chérubin Dorsil et Nathalie Barge en votre compagnie. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Au sommaire ce soir, République centrafricaine. La coalition Séléka tente à nouveau de se réorganiser.
Le nouveau bureau politique compte une trentaine de membres, parmi lesquels de nouveaux visages.
Épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la crise semble maîtrisée en Guinée, mais en Sierra Leone, c'est la course contre la montre.
Avec une recherche plus active, nous pouvons encore trouver beaucoup plus de foyers actifs qui sont connus actuellement.
On écoutera le directeur des opérations de MSF tout à l'heure.
Quatrième jour de l'offensive israélienne à Gaza, le bilan a déjà atteint une centaine de morts.
En Ukraine, une attaque des séparatistes fait au moins 19 morts et 93 blessés parmi les troupes gouvernementales.
Et dans notre segment spécial sur la Coupe du Monde, que va faire le Brésil demain face aux Pays-Bas?
Il essaie de laver l'affront de l'Allemagne. Et ça, ce ne serait pas évident. Mais c'est des professionnels, ils doivent se mettre à la tâche et essayer de finir le boulot qu'ils ont commencé.
Mais d'abord, le journal.
En Centrafrique, la coalition Séléka se réorganise. Au terme d'une assemblée générale tenue hier et aujourd'hui à Birao, au nord-est, le président destitué Michel Djotodia, qui a été reconduit à la tête du mouvement. Par ailleurs, plusieurs centaines de combattants du mouvement armé Révolution Justice marchent depuis le nord du pays pour atteindre la capitale en signe de protestation contre l'insécurité. Le point avec Félix Yepassi Zembrou.
Michel Djotodia et Nouredine Adam, reconduits par les ex-combattants rebelles à la tête de la coalition Séléka, sont visés par des sanctions de l'ONU et des États-Unis. Le nouveau bureau politique compte une trentaine de membres, parmi lesquels de nouveaux visages. Le général Mohamed Moussa Dafane, ex numéro 3 du mouvement, retrouve sa place. L'ancien coordonnateur politique provisoire Abdoulaye Hissène devient conseiller chargé du désarmement. Cependant, rien n'a encore filtré au sujet des représentants de Séléka au forum de Brazzaville, prévu du 21 au 23 juillet prochain. Entre-temps, de nombreux combattants du mouvement armé Révolution Justice poursuivent leur marche pacifique. Le capitaine Imale Momrong, porte-parole de cette milice, a expliqué que les fantassins ont quitté plusieurs régions du Nord à pied pour atteindre Bangui. Ils entendent ainsi exprimer leur exaspération face à l'aggravation de l'insécurité sur l'ensemble du territoire centrafricain et dans le Nord en particulier.
Des assaillants lourdement armés ont attaqué la nuit dernière, sans faire de victimes, un village de la côte kényane, région frappée récemment par une série de raids meurtriers, signale l'AFP, citant une source officielle. C'est la dernière attaque en date sur la côte de l'océan Indien, proche de l'archipel touristique de Lamu. Les assaillants ont brûlé plusieurs maisons, dont une école et un dispensaire, et ont aussi dérobé les biens avant de s'enfuir.
L'armée ougandaise a annoncé ce vendredi avoir rétabli l'ordre dans une zone montagneuse de l'ouest du pays, où une centaine de personnes ont été tuées lors d'un conflit tribal début juillet. Selon la police, il s'agit au départ de violences interethniques déclenchées par la communauté majoritaire les Bakonzo contre la minorité Bassongora, en raison notamment de différends de longue date liés à la terre, a affirmé à l'AFP le porte-parole de la police Fred Enanga. Les forces de sécurité ont arrêté plus de 80 suspects qui, selon M. Enanga, sont passibles de la peine de mort ou de la prison à vie s'ils sont reconnus coupables de trahison en lien avec les islamistes somaliens d'Al-Shabaab.
Grogne des fonctionnaires au Gabon, ils attendent toujours la prime de performance promise par le gouvernement. Sarah Diaby.
Les fonctionnaires gabonais en attente de la prime de performance promise par le gouvernement sont en colère. À ce jour, la prime est officiellement disponible et le paiement devrait être effectif pour tous les bénéficiaires. Pourtant, attendu pour le 7 juillet par tous les agents de l'État, certains l'ont reçu pendant que d'autres, la majorité, restent encore dans l'attente. Dénommé PIP, l'objectif de son instauration était d'inciter les employés de l'État à la compétence et au travail bien fait. Le gouvernement gabonais n'a pas donné les raisons de ce retard de paiement. Rappelons que la PIP a été créée par le président de la République, Ali Bongo, en février 2014. Elle remplace les fonds communs, un avantage dont bénéficiaient seulement 9 000 fonctionnaires du Trésor, de la douane et des impôts. Le président, avec l'instauration de la PIP, l'a élargie à 30 000 autres agents de l'État.
Au Sénégal, la Cour de répression de l'enrichissement illicite a mis en demeure ce vendredi l'ancien ministre et actuel maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, dans l'affaire des biens supposés mal acquis. Des précisions avec Jacques Aristide.
Abdoulaye Baldé est notamment appelé à justifier un montant bancaire d'1,4 milliard de francs CFA, environ 2,7 millions de dollars. L'ex-ministre de la Défense du régime d'Abdoulaye Wade dispose d'un mois pour le faire à partir d'aujourd'hui. Il a également été directeur exécutif de l'ANOSI, l'Agence nationale pour l'organisation de la conférence islamique, dont le budget se chiffrait à des centaines de milliards de francs CFA. Le maire Baldé, aussi leader de l'Union des centristes du Sénégal, s'est récemment défendu en affirmant être victime d'une vendetta politique. Il a justifié la somme d'argent par le cumul de revenus. Réaction également ce vendredi de ses partisans venus manifester leur soutien devant les locaux de la CRI à Dakar, la capitale, avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. L'affaire rappelle celle de Karim Wad, détenu depuis plus d'un an, en attendant l'ouverture de son procès le 31 juillet pour enrichissement illicite. Le fils de l'ancien chef d'État a lui aussi parlé de règlement de comptes politiques. La CREI a été réactivée par le président Macky Sall pour demander des comptes à certains poids lourds du régime Wad quant à l'origine de leur patrimoine.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, la flambée de fièvre hémorragique à virus Ebola a pratiquement cessé en Guinée, mais continue de faire rage au Libéria et en Sierra Leone voisine. Dans sa dernière mise à jour publiée ce vendredi, l'OMS dit que le Libéria rapporte 11 nouveaux cas et 4 décès dus à la maladie, tandis que la Sierra Leone signale 32 nouveaux cas et 15 décès. En revanche, la Guinée a vu un seul nouveau cas d'Ebola dans les 7 derniers jours. 2 personnes sont mortes cette semaine de cas antérieurs.
En Égypte, 2 personnes ont été tuées, 3 autres blessées au Caire dans des heurts entre partisans et opposants de Mohamed Morsi, indique l'AFP. Selon un responsable du ministère de la Santé, Mohamed Soltan, les 2 hommes ont été tués durant une manifestation organisée par des partisans du président destitué dans le quartier de Mataria après la prière du vendredi.
Une fusée Soyouz embarquant 4 satellites européens a été lancée avec succès depuis le site de Kourou en Guyane française. L'objectif est d'offrir un meilleur accès à Internet dans les pays du Sud. Claire Morin-Gibourg.
En 2007, Greg Wheeler, ingénieur télécom travaillant au Rwanda, se désole du peu d'accès à Internet dans le pays. Il crée alors un projet appelé O3B pour un meilleur accès à Internet dans les pays du Sud. O3B pour Other 3 Billion, c'est-à-dire les autres 3 milliards de personnes qui n'ont pas de connexion à Internet dans le monde. Il se focalise sur la transmission par satellite contre le câble ou la fibre optique qui demande plus d'infrastructures. La connexion par satellite existe déjà en Afrique, mais elle est très coûteuse. Greg Wheeler crée alors un concept de petit satellite à orbite basse permettant une réduction des coûts de fabrication et de lancement. 4 satellites ont été lancés avec succès hier soir en Guyane par Ariane Espace. Les premiers pays concernés par cette nouvelle couverture satellite sont la RDC, le Kenya, la Somalie et le Pakistan.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Selon les autorités palestiniennes, l'offensive israélienne à Gaza a fait jusqu'ici au moins 100 morts. Ce vendredi a marqué le 4e jour des raids de l'armée israélienne, tandis que des militants palestiniens ont encore tiré des roquettes sur Israël. Les militants de Gaza ont lancé environ 550 roquettes sur Israël dans les récents combats sans faire de victimes israéliennes. Des officiels ont annoncé qu'une roquette tirée depuis le sud du Liban a frappé le nord d'Israël, près de la frontière sans faire de victimes. Israël a dit avoir riposté avec des tirs d'artillerie. Ce vendredi, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Navi Pillay, a appelé les parties à la retenue. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a dit qu'il ne cédera pas à la pression internationale pour arrêter la campagne militaire.
Le secrétaire d'État américain John Kerry exhorte les Afghans à la patience alors qu'ils tentent d'arracher un compromis entre les candidats à la présidence Abdullah Abdullah et Ashraf Ghani. Michel Joseph.
Arrivé à Kaboul ce vendredi, M. Kerry s'est entretenu avec le président Hamid Karzai et les deux protagonistes sur la révision des suffrages du second tour à la base du litige. Les deux candidats se sont déclarés vainqueurs du scrutin du 14 juin, mais, souligne le secrétaire d'État, il est trop tôt pour de telles prises de position. Les résultats annoncés lundi sont préliminaires, ils ne font pas autorité ni ne sont des résultats définitifs. Donc, personne ne devrait proclamer sa victoire à ce stade du processus, dit John Kerry. Selon la commission électorale afghane, Ashraf Ghani devancerait son rival Abdullah Abdullah par environ 1 million de voix, mais l'ancien ministre des Affaires étrangères rejette ces chiffres, accusant la commission de fraude massive. L'ONU a annoncé aujourd'hui un plan de révision de 3,5 millions de bulletins pendant 2 semaines. Ils proviennent de plus de 8 000 bureaux de vote, soit 44 % des suffrages exprimés. Les résultats définitifs sont attendus fin juillet.
Dans le nord de l'Irak, les miliciens kurdes ont pris le contrôle de 2 champs de pétrole. Le ministère du pétrole à Bagdad a condamné cette action et ordonne aux Peshmerga de se retirer immédiatement des champs de Kirkouk et de Bayasan.
En Ukraine, une attaque à la roquette par les séparatistes pro-russes fait au moins 19 morts et 93 blessés parmi les troupes gouvernementales. La nouvelle a été confirmée par le ministère de la Défense. À Kiev, le président Petro Poroshenko a juré de détruire les auteurs de cette attaque, ajoutant que pour chaque soldat ukrainien tué, les rebelles vont perdre des dizaines et des centaines de combattants. Voilà pour le journal. Il est 18h41 à temps universel, 14h41 ici à Washington. Le Monde aujourd'hui, chez Robin Dorsil et Nathalie Barge, en votre compagnie.
Dans son rapport intitulé « Le temps de rendre des comptes » publié jeudi, Amnesty International a épinglé certains auteurs présumés de crimes et atrocités commis en République centrafricaine depuis 2013. Parmi eux, l'ancien coordonnateur des anti-Balaka, Lévi Yakité, qui rejette en bloc ces accusations.
Ce rapport n'est pas très différent de celui qu'a publié la FIDH. Je me rends compte malheureusement que toutes ces organisations dites de défense des droits de l'homme se fondent sur de simples allégations non fondées pour accuser, porter de graves accusations sur des citoyens qui ne méritent pas ce genre d'accusations. Ils ne se focalisent que sur ce qui s'est passé de 5 décembre 2013 à ce jour, alors que des milliers de Centrafricains ont été martyrisés, ont été tués, ont été pillés, violés. De décembre 2012 jusqu'à ce jour, personne n'ose parler, mais c'est le fait des anti-Balaka dont on nous fait la responsabilité, malheureusement, qui préoccupe tout le monde. Et je suis déçu. Je suis déçu de ce rapport. C'est déplorable.
Oui, hormis ce rapport d'Amnesty International, il y a aussi les Nations Unies qui ont pris des sanctions contre vous et quelques autres.
Mais oui, les Nations Unies ont pris ces sanctions sur la base de simples allégations, sur la base des propos diffamatoires. Et mensongers, tenus par des individus que nous connaissons. Comment on peut faire foi à des propos tenus par un certain Prosper Ndouba dans son journal South Africa Press, alors que tout le monde sait que ce monsieur a été conseiller en communication des Séléka de M. Dotodia.
Monsieur oui. Lévi Yakité, les anti-Balaka dont vous êtes ou vous étiez le coordonnateur sont toujours actifs dans le pays, et ce malgré l'appel au retour de la paix. Quelle est votre réaction à cela?
Je ne me suis jamais déclaré comme coordonnateur des anti-Balaka, mais je sais à mon âme et conscience que tout ce qu'on accuse aujourd'hui, à qui on attribue l'étiquette d'anti-Balaka, c'est des citoyens centrafricains. À un moment donné, nous avons averti la communauté internationale que la Séléka est un mal qui va gangréner la Centrafrique, mais l'Afrique centrale tout entière. Personne n'a voulu nous écouter. Nous allons partager toute cette responsabilité au lieu de désigner des coupables, tout le monde est responsable de ce chaos.
L'ex-coordonnateur des anti-Balaka Lévi Yakité était joint par Félix Yepassis Zembrou.
Bonjour, c'est Nicolas Pineau de Sporama sur la Voix de l'Amérique. La Coupe du Monde au Brésil non-stop sur votre portable, c'est possible, allez sur voabrésil2014.com. Les matchs en direct, résultats, photos et vidéos de cet événement planétaire à partager avec vos amis sur Facebook et Twitter. La Coupe du Monde non-stop, c'est sur voabrésil2014.com.
Médecins sans frontières évoquent une véritable course contre la montre en Sierra Leone pour juguler l'épidémie de virus à fièvre hémorragique Ebola. On écoute les précisions du docteur Bart Janssens, directeur des opérations à MSF.
Nous voyons qu'avec une augmentation des activités de recherche des contacts, le nombre de patients qui sont trouvés et alors référés vers les centres de traitement de MSF augmente sensiblement. Il y a un exemple très important d'un village où nous avons encore trouvé 40 nouveaux cas en une journée. Donc pour nous, c'est effectivement, cette augmentation d'activité de recherche active nous pousse aussi d'avancer rapidement pour augmenter notre capacité de prise en charge de ces patients. Ça, c'est un. Et de deux, cela montre qu'avec une recherche plus active, nous pouvons encore trouver beaucoup plus de foyers actifs qui sont connus actuellement.
MSF affirme avoir plus que doublé le nombre de lits mis à la disposition dans les centres de traitement, mais est-ce que ça va être suffisant?
C'est une bonne question. Déjà que c'est le plus grand centre de traitement Ebola que nous avons jamais mis en place, donc c'est déjà une augmentation très très importante de notre capacité. Pour le moment, nous arrivons à suivre les besoins, mais maintenant la grande question c'est avec cette augmentation de recherche active, quelle est la réalité que nous avons trouvée aussi. Deuxième, il est très important aussi qu'avec notre expérience, quand on peut trouver les personnes infectées en début de période de maladie, maintenant on a une forte idée qu'on peut avoir plus de chances de les faire survivre.
Sinon, le taux de mortalité du virus à fièvre hémorragique Ebola de type Zaïre est d'environ 90%.
90%, c'est le chiffre qui est connu. De toute manière, il est très élevé. Actuellement, nous avons un chiffre, dans toute l'épidémie, 70 à 80%. Donc, c'est clair que cette épidémie est en train de nous apprendre encore plus sur la prise en charge d'une maladie de l'Ebola.
C'était le docteur Bart Janssens, directeur des opérations à MSF, joint par Camille Codidier.
Plus d'un an après les accords de Ouagadougou où les négociations entre le gouvernement malien et les groupes du nord du Mali semblent toujours au point mort, sur le terrain les tensions sont toujours vives, en particulier entre les Touaregs et les Peuls. Plus de détails avec notre correspondant à Kidal, Assakadaï Agouazergan.
Effectivement, nous avons des informations qui ont été rapportées par des gens qui revenaient de ce secteur. Effectivement, des animaux de Touareg ont été enlevés par un soi-disant groupe portant le nom de Mijao. Et ça faisait dans la zone entre à la frontière entre le Niger et le Mali, selon les informations que nous recevons de cet endroit.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a toujours autant de tensions entre les communautés Peul et Touareg dans le nord du Mali?
Et effectivement, il y a ces tensions-là entre les communautés Touareg et Peul dans le nord du Mali existent. Parce que ces tensions-là ont pour origine, effectivement, l'enlèvement des animaux. Et vous savez que quand vous touchez à un Peul, le détail, c'est valable pour les Peul aussi bien que les Touareg. Vous savez que c'est des choses qui ne s'acceptent pas. Donc, c'est là le problème.
Et on entend aussi reparler du Mujao.
Oui, effectivement, le Mujao. Vous savez, ici, tout ce qui n'est pas mouvement, n'est-ce pas, et les gens sont ici, se retrouvent dans ce contexte-là. Et maintenant, vous détaillez qui est Mujao, qui n'est pas, c'est l'équation difficile à répondre. Mais tout est fait au nom du Mujao.
Et aujourd'hui, à votre avis, qu'est-ce qui est le plus inquiétant dans le nord du Mali?
Au fait, le MNLA aussi bien que le Mujao, bon, aujourd'hui, tout ce qui se passe, en tout cas, on rend responsable Mijao par rapport à tout ce qui se passe ici. Et le MNLA, en tout cas, devait être vraiment aujourd'hui là pour assurer et protéger les populations et leurs biens de façon générale sur le territoire de la Zawad.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les accords de Ouagadougou sont un échec?
Mais au fait, je ne pourrais pas dire que les accords de Ouagadougou sont un échec parce que même ces négociations qui auront lieu dans quelques jours auront pour base l'accord de Ouagadougou. Donc c'est pour dire que l'accord de Ouagadougou n'est pas un échec. Peut-être qu'il y a des choses à revoir.
Ainsi qu'Adaï Agouazergan, notre correspondant à Kidal, était au micro de Claire Morin-Gibourg.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Le monde n'a jamais compté autant de jeunes, a souligné le secrétaire général de l'ONU à l'occasion de la Journée mondiale de la population. Mais un trop grand nombre sont privés des opportunités qui leur permettraient d'intégrer la vie économique et politique de leur pays. Le point avec Benoît Kalassa, directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Le choix du secrétaire général des Nations Unies et du directeur exécutif du Fonds des Nations Unies pour la population de mettre la journée mondiale de la population de cette année sur les jeunes est essentiellement guidé par la structure par âge de la population mondiale qui donne à peu près 1,8 milliard de cette population qu'on peut catégoriser comme étant jeunes. Un bon tiers de la population mondiale. Donc, mais quand on vient sur des continents jeunes comme l'Afrique, ce pourcentage monte jusqu'à constituer la moitié de la population. Et en ce moment, vous comprendrez qu'il vaut mieux, n'est-ce pas, qu'on voit la nature des investissements que nous faisons sur ces jeunes-là pour en faire le moteur du développement dans le futur.
Et justement, le problème, c'est que dans nombre de pays en développement, ces jeunes n'ont pas accès aux opportunités dont ils ont besoin pour participer au développement de leur pays.
Oui, donc la journée en fait mondiale de la population, c'est une journée de plaidoyer. Ce qu'elle compte réaliser, c'est attirer l'attention des décideurs, de dire « oui, vous avez ce nombre de jeunes dans vos pays ». Mais leur poser en même temps la question, est-ce que vous êtes sûr que vous investissez suffisamment dans ces jeunes pour en faire le moteur? Et le plaidoyer commence maintenant à leur démontrer quels sont les mauvais choix qui se font dans nos pays. Et parmi ces mauvais choix, il y a les mariages précoces, les types d'investissement dans des filières scolaires qui ne sont pas nécessairement les plus rentables pour le développement économique. Et tous les problèmes d'inéquité entre les garçons et les filles. Oui, vous avez le nombre, mais quelle est la qualité de ce nombre pour en faire un capital humain de qualité productive sur lequel vous pouvez compter pour un développement meilleur?
Benoît Kalassa, directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population, pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le journal de la Coupe du Monde, Bagassi Koura, est avec nous en studio. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de la Coupe du Monde. Plus que quelques deux jours, ce sera la grande finale entre l'Argentine et l'Allemagne. Mais avant demain, lors de la petite finale, je sais que c'est ce qui vous intéresse Chérubin, la petite finale où votre équipe Brésil va jouer sa finale, bien sûr. Le pays hôte aura certainement le temps de se racheter. Le match des perdants oppose en effet ce samedi à Brasilia les Pays-Bas au Brésil. Un Brésil plus que humilié lors de son dernier match contre l'Allemagne, 7-1. Alain Guaméné, il est ancien gardien de but des éléphants et actuel entraîneur des éléphants juniors. Il souligne que la remotivation sera très difficile, ce sont ses mots, mais franchement, il faut finir le tournoi.
La remotivation sera très difficile, mais forcément, il faut finir le tournoi. Parce que et prendre 7 buts à domicile en Coupe du Monde, et que tout le monde pensait, les spécialistes savaient que l'équipe de Zine n'avait pas une grande équipe, qui connaissait des individualités. Mais là, pour remotiver cette équipe, l'entraîneur était accompagné d'un préparateur psychologique. Donc, normalement, il doit pouvoir se mettre au travail, mais sans préparateur. Simplement dire aux jeunes joueurs de finir ce qu'ils ont commencé, tout simplement. Ce n'est pas facile. Ouais. Il y a eu des pleurs. Il y a eu des pleurs. Il y a eu plein de choses. Il y a eu des discours. Il y a eu des journalistes. Les écrits, c'est pas évident pour un entraîneur. Mais c'est des professionnels de football. Je pense qu'ils vont se mobiliser même pour le pays. En disant pour le pays, c'est trop dire, mais pour eux d'abord même. Ils essaient de laver l'affront de l'Allemagne. Et ça, ce serait pas évident. Mais c'est des professionnels, ils doivent se mettre à la tâche et essayer de finir le boulot qu'ils ont commencé.
Voilà, c'était donc Alain Guaméné, l'ancien gardien de but des éléphants de Côte d'Ivoire. La petite finale Chérubin sera arbitrée par un Africain. L'Algérien qui va arbitrer la rencontre pour la troisième place du mondial entre le Brésil et les Pays-Bas. Il s'appelle Jamel Haïmoudi. Selon Foot Africa 365, il est âgé de 43 ans. Il avait déjà officié Australie, Pays-Bas, Costa Rica, Angleterre et Belgique, États-Unis. Et Chérubin, soulignons que la finale aura lieu ce dimanche au Maracana, sans le Brésil, car l'Allemagne devra confirmer face à une Argentine plus que jamais déterminée. Et puis au Brésil toujours, plus que deux matchs avant la fin du tournoi, cette Coupe du Monde, c'est aussi l'occasion pour la FIFA d'organiser un tournoi entre équipes de jeunes venus du monde entier. Le Festival de l'Espoir, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ici, respecter son adversaire est aussi important que de gagner. Le reportage de notre envoyé spécial au Brésil, Nicolas Pino.
C'est dans le quartier de Caju, près du port de Rio, que ces adolescents du monde entier s'adonnent au football. C'est l'autre Coupe du Monde, comme l'a dit Sepp Blatter, le président de la FIFA, à l'ouverture du tournoi. 32 équipes mixtes venues de 15 pays se sont affrontées dans la bonne humeur et le fair play. Nongam Talé est une jeune zambienne de l'association Grassroots Soccer.
J'adore cet endroit, j'adore le fait de pouvoir rencontrer des gens de différentes cultures, c'est super.
Pour redorer son image de gouvernement mondial du foot business, la FIFA sponsorise une centaine d'associations à travers le monde depuis 9 ans. 36 millions de dollars ont été versés dans le domaine de la lutte contre le sida, la résolution des conflits ou encore l'éducation. Le meilleur exemple est l'équipe pour la paix composée de Palestiniens et d'Israéliens. Cette initiative résonne particulièrement en cette période de conflit au Proche-Orient. Écoutons Omer et Mohamed.
C'est bien pour nous de faire ces pas pour la paix entre Palestiniens et Israéliens.
On n'est pas là que pour jouer au football, mais pour délivrer un message de paix. Nous pouvons vivre ensemble et communiquer.
Ce tournoi de l'espoir est aussi l'occasion de découvrir le Brésil pour ces trois jeunes Français, Ismaël, Ludovic et Boufouane.
C'est un pays magnifique. Après, ce que j'ai appris, c'est des personnes très très ouvertes. C'est très très chaleureux.
Franchement, les gens ils sont accueillants, ils sont serviables. C'est pas tout ce qui se passe à la télé, c'est faux. Il faut venir pour découvrir le pays parce que c'est vraiment bien.
En fait, ce qui monte à la télé, c'est un peu vrai, mais le Brésil, c'est le jour et la nuit. Il y a le côté très riche comme il y a le côté très pauvre. On va dire qu'il y a une très grande différence.
Tous ces jeunes quitteront bientôt le Brésil avec le sentiment d'avoir vécu une expérience unique de partage et de tolérance. Cela vaut toutes les victoires, même une Coupe du Monde. Nicolas Pino, Rio, pour la Voix de l'Amérique.
Voilà, un mot sur le mondial. Il faut dire que Neymar fait partie des nominés pour le Ballon d'Or du mondial 2014. Et Chérubin, pour terminer, LeBron James, le grand joueur de basketball ici, retourne au village.
Oui, il va laisser le Miami Heat pour Cleveland Cavaliers. En fait, il avait commencé à Cleveland. On lui souhaite bonne chance.
Voilà, merci.
Merci Bagassi Koura et Nicolas Pino pour le journal de la Coupe du Monde au Brésil qui nous mène tout droit à la page musicale avec Roger Muntu qui vient de rentrer dans ce studio. Roger, bonjour.
Salut Nathalie, salut Gabi, la chanteuse de Zouk, Christiane Vallejo, est née à Sainte-Marie en Martinique. Elle nous dit dans cette chanson, Nathalie, « Je peux vivre sans toi ».
Ah bon.
Original Christian Vallejo, 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 Vallejo. Yeah, 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 yeah.
Tu me regardes sans dire un mot. Aujourd'hui, accepte nos défauts. Tu m'as trompé toutes ces années, mais là je m'en vais. Je pense avoir trouvé ce qu'il me faut. Quelqu'un qui m'écoute, qui soit nous, qui sait m'aimer sans compter et sans arrière.
Christiane Vallejo est attirée dès son plus jeune âge par la musique et c'est tout naturellement qu'elle intègre la chorale de sa paroisse à l'âge de 15 ans, Roger.
Exact, Nathalie, elle était trop jeune, hein, à 15 ans, je sais pas moi si... 15 ans, je me rappelle même plus ce que moi je faisais, Nathalie. Hein. Mais écoute, elle est remarquée par Ronald Atul qui lui donne sa première chance. De nombreuses rencontres suivront Eric Vigal, Malavoie et beaucoup d'autres.
Et Et voilà, on arrive au terme de cette émission. Donc, émission présentée par Chérubin Dorcil et Nathalie Barge. Très bonne soirée à tous. À très bientôt. Au revoir.